En immersion, un podcast des agences de l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud.
Et moi, Louise Régent.
Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience.
Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire.
Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile.
Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu.
Voire pas du tout.
Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement.
Alors on vous propose de partir à leur rencontre.
Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain et c'est parti, on vous embarque avec nous.
Balade au rythme de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Régent et aujourd'hui je suis à Rochecorbon. Rochecorbon, c'est une petite ville de 3000 habitants située à quelques kilomètres de Tours dans la région Centre-Val de Loire. Et c'est une ville qui est connue pour ses maisons troglodytes, des maisons creusées dans les coteaux au pied desquels coule la Loire. J'ai rendez-vous avec Thierry Bouvet qui est pêcheur et qui va m'emmener faire une balade sur son bateau à la découverte de ses meilleurs coins de pêche. Bonjour Thierry.
Bonjour Louise, bienvenue à bord.
Je m'appelle Thierry Bouvet. J'ai presque 60 ans et je suis pêcheur depuis maintenant 10 ans, pêcheur professionnel sur la Loire.
Alors là, nous on prend le petit bateau.
On prend le petit qui est caché derrière
le grand bateau. C'est un bateau typique, c'est un bateau à fond plat, c'est ça?
Voilà, ils sont tous à fond plat parce que c'est ce qui est adapté à ce cours d'eau. C'est pour des niveaux d'eau qui varient beaucoup. Et puis le fait que le bateau puisse se poser, se manipuler à la bourde, là ça présente des avantages.
C'est quoi la bourde?
La bourde, c'est ce grand bâton qui nous permet de manœuvrer sur l'eau lorsque les fonds sont restreints. On va utiliser le moteur pour se déplacer essentiellement. Et sinon, on va devoir être le plus discret possible et passer dans les endroits malaisés. Et donc, dans ce cas-là, la bourde est un atout.
Puis elle se faufile partout, votre barque?
Oui. Et oui, parce que en Loire, on pêche à pied, on pêche en bateau, on pêche en forêt, on pêche sur la plage. On va dans les forêts de sol poser des engins, voir des petits filets. Parce que le niveau de l'eau est monté et qu'on est dans la forêt des îles ou la forêt des berges.
Il y a 40 ans, je suis venu finir mes études de géographe à Tours. Et là, j'ai été conquis par le fleuve, la lumière, la densité du patrimoine historique, la nature sauvage de ce fleuve. On peut dire sa beauté, tout simplement.
Moi, je monte avec vous.
Voilà.
Alors, c'est parti. Hop.
Lorsque je me suis installé, il n'y avait que deux pêcheurs professionnels. Maintenant, on peut considérer qu'on est 7 temps plein sur cette activité.
Je m'assois où, alors?
Sur le... La Côme.
La Côme, c'est le petit...
La Côme,
c'est le petit...
C'est le bac à poissons.
C'est le bac à poissons. Il y a des poissons dedans?
Non.
Il
La Loire, c'est le plus long fleuve de France. 1000 km entre le Mont-Gerbier-des-Joncs, au fin fond du Massif central, et l'estuaire à partir de Saint-Nazaire. La Loire, elle est sauvage. Vraiment, c'est ce qui la caractérise. Elle fait une frontière entre le nord et le sud de la France. Elle est un couloir de biodiversité avec des arbres partout sur ses berges. C'est fantastique, la Loire.
Elles sont marrantes, ces algues. Elles sont roses. C'est une espèce invasive ?
Oui.
Ah.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, invasif ? Là, on pourrait quasiment dire que ça a été une aubaine pour les brochets, pour la survie des brochets. C'est un abri, ça va aussi couvrir l'eau. Alors, ça va pomper l'oxygène, mais ça va peut-être réduire les températures à un moment.
En tout cas, elle est verte et rose, cette algue, quand même.
Oui.
J'insiste sur le fait qu'elle est rose.
Il y a un peu d'altonien. Mais ça n'empêche pas d'être pêcheur.
Sur la Loire, on transportait le bois qui descendait, mais aussi des produits transformés qui remontaient. Il y avait le sel, il y avait parfois le vin, parce qu'il circulait dans tous les sens, lui. Pendant longtemps, c'était l'artère de la France, quoi, qui a permis de développer toute une civilisation de mariniers, de commerçants, de gens de l'échange. Et puis, le coup de grâce de sa fonction de transport et d'union, c'était le chemin de fer. Et là, entre 1840 et 1860, c'était plié. En 50 ans, une civilisation a disparu. On l'a négligé, on s'est précipité dans cette ère de la science, du fer, du charbon, puis du pétrole. Bon. Maintenant, on prend plus de recul, on la retrouve.
Elle est navigable aujourd'hui, la Loire ? Est-ce qu'on transporte des marchandises dessus encore ?
Non, la Loire n'est plus navigable en tant qu'axe de transport de marchandises. La fonction nourricière existe, la fonction patrimoniale existe, la fonction récréative existe. Lui rajouter la fonction de transport, ça serait très certainement handicapant pour toutes les autres.
Ah, on va tomber en panne de moteur ?
C'est quoi ?
Non. Ah, on est en panne, ok.
On n'est jamais loin de la rive, hein. Là t'es au cœur de tour. Hein. Je peux prendre le bus dans 30 secondes.
C'est quoi qui nous survole là ? C'est un cormoran ?
Non, c'est un héron.
C'est un héron.
Alors, par exemple, là, cet arbre, il est tombé en début de saison, au printemps. Jusque-là, ça circulait, et là, en fait, il empêche que ça circule, et t'as un tourbillon derrière. Et ça va être propice même à mettre un petit filet. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau coin chouette pour un petit filet.
Les techniques que j'utilise sont des techniques traditionnelles qu'on manœuvre à force d'homme. C'est des filets fixes, c'est parfois des filets dérivants, c'est parfois de la senne de plage, c'est aussi des verveux qui sont des nasses en filet, donc également les nasses, la ligne de fond qui va être propice pour les silures. Et puis c'est respecter les rythmes de la nature, c'est-à-dire ce qu'elle propose, à savoir qu'au printemps, les migrateurs remontent. L'été, il y a très peu d'eau, donc on est juste sur de la senne de plage. Et l'automne, ma foi, les migrateurs dévalent. J'ai travaillé au début de mon activité en hiver. Je cassais du matériel, j'avais froid, j'étais pas efficace, j'étais pas sur les marchés au moment où il fallait y aller. Et donc, ça me ramène à davantage d'humilité, au respect des rythmes. On ne peut pas être au taquet tout le temps. Voilà, il y a des moments où les poissons sont au repos, bah, le pêcheur doit l'être également.
Là, on n'a pas de poisson, là.
Alors là, les eaux sont très froides, autour de 7-8 degrés. Et en ce moment, les poissons ne bougent très peu. Donc, oui, quasiment.
Vous êtes un peu au chômage technique, là, en fait.
Bah, franchement, parce qu'il y a des tas d'autres choses à faire. Il faut transformer, il faut aller vendre.
Transformer.
Eh ben, il faut transformer les poissons qu'on a pêchés au moment où la pêche était abondante.
Et on vous les transforme en quoi, du coup?
On les transforme en terrine, dans nos propres ateliers. Certains collègues ont des ateliers. D'autres font du fumé. D'autres encore surgèlent pour une diffusion nationale des plus belles pièces. Moi-même, je fais du garum, qui est une sauce fermentée de poissons.
Un peu comme le
gnoc mam, voilà. C'était en fait le ketchup de l'Empire romain. Et je l'ai réhabilité.
Et alors, à partir de quoi vous faites le garum? À partir de quelles espèces?
En fait, je le fais avec toutes les espèces. Donc essentiellement les carpes, les barbeaux, les brèmes, les otus. Et un qui nous a rejoint récemment, l'asp. Et puis le silure. Le silure, qui représente plus de la moitié de nos prises. Il a une tête de poisson-chat, mais en volume XXL. Il a un corps allongé, on va dire, un peu à la manière d'une anguille. On dit souvent qu'il n'est pas beau. Fréquemment, on prend des silures qui font plus de 2 mètres, voire parfois 2 mètres 50, et qui dépassent les 100 kilos.
On est retombé en panne, là, ou... On est retombé en panne.
C'est un moteur contrariant.
Comment considérez-vous votre rôle de pêcheur vis-à-vis de votre fleuve, la Loire ?
En fait, on est extrêmement moderne. Il y a de la ressource, on sait exploiter cette ressource durablement, on sait lui donner de la valeur par les transformations, terrine, garum, fumée, etc. Et nous, on a envie de faire simple, de faire sain, de faire sobre. Voilà. Et ça correspond à ce que les cuisiniers veulent faire, à ce que les clients attendent, et tout ça pour que ça dure longtemps, et on prouve que c'est possible. Et donc, on a du plaisir à le faire. Là, on se rend bien compte qu'on est en ville, on entend le bruit de l'autoroute, les ponts, et on a cette coulée verte, étroite, mais d'une richesse fantastique. Et on dit souvent, oh, les gens font pas gaffe, etc. Mais je trouve que les gens, ils se rendent bien compte que c'est un privilège. Et ils en sont bien respectueux quand même.
Il y a très peu de déchets, de sacs plastiques, de choses comme ça dans la Loire. On n'en voit pas beaucoup, là. Hein.
Mais oui, vraiment. Vraiment. Ça arrive, bien sûr. Vraiment, c'est peu.
Comme tous les cours d'eau, la Loire souffre forcément du réchauffement climatique. Vous le constatez, vous, au quotidien, dans votre activité?
Ah bah, et là, il n'y a aucun doute. En 10 ans d'activité, ou presque 10 ans d'activité, je n'ai connu que des extrêmes. L'extrême du bas, l'extrême du haut, l'extrême de la chaleur, l'extrême du froid. En mars 2019, par exemple, la Loire était à un débit de 130 mètres cubes. C'est-à-dire quasiment une sortie d'été. Donc il n'y avait eu aucune recharge des nappes. L'hiver avait été hyper sec. Il y a eu aussi, en juin 2018, je crois, des crues qui ont été bouleversantes pour le milieu. On est sur des arbres qui ont soif sur les bords de Loire, quasiment chaque été. On est sur des ruptures d'approvisionnement en eau potable de la commune de Vouvray, qui est une commune riveraine de la Loire. Nous sommes dépendants de ce que les gens font en amont et on est responsable de ce que l'on fait pour ceux qui sont en aval. La solidarité doit fonctionner au niveau de l'ensemble du bassin et considérant que le cycle de l'eau est un cycle terrestre, il nous faut être solidaires de tous nos frères humains, qu'importe le terme, mais de cette humanité qui d'ailleurs n'a de sens que si elle prend en compte le reste du vivant. L'eau, les arbres, la végétation. Nous y avons notre place, mais juste une place, pas toute la place.
Là, on a un arbre qui a été abattu.
Toutes les branches, l'extrémité des branches de l'arbre abattu ont été grignotées par la famille Castor.
Ah, tout ça, ça a été grignoté, ça.
Ouais.
Ah, on voit vraiment bien hein, qu'ils ont grignoté le bois. Comment vous vous projetez dans les 10, les 15 prochaines années sur ce territoire au bord de la Loire ?
J'espère en sage, à qui la Loire aura enseigné les choses essentielles. Il nous faudra nous accorder du temps, prendre une juste place dans le monde et respecter le monde. Et les bords de Loire seront un endroit propice pour vivre, pour recevoir, pour aller à la découverte d'ailleurs et revenir. Je m'y sens bien.
Bon bah tant pis, on ne pêchera pas aujourd'hui. Hein. On va laisser les poissons dormir, faire la sieste.
Laissons-les. En faisant des trêves parfois entre nous, voilà, ce n'est que des armistices, hein, parce qu'on sait que ça recommencera. Mais pour l'instant, profitons.
On les retrouvera au printemps.
Exactement.
Youhou ! Virage à 360 ! Voilà, ma balade sur la Loire est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur un autre fleuve ou une autre rivière ailleurs en France.
Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdelau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.